Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle conférence de presse publique. Comme d'habitude, on va un petit peu comme ça commencer à parler des spectacles et ensuite je vous proposerai de poser des questions si vous en avez aux différents artistes qui vont venir. En l'occurrence, Bernard Sobel et Denis Lavant pour Un homme est un homme. Et ensuite, il y a eu un petit changement de programme, nous recevrons l'équipe de Birgit, qui va donc être le deuxième spectacle de la Cour d'honneur du Palais des Papes. C'était prévu demain, c'est en fait aujourd'hui, il y a eu des inversions pour des raisons d'emploi du temps. Bernard Sobel, bonjour. Bonjour Denis Lavant. Donc, Un homme est un homme de Bertolt Brecht, qui commence le 14 à Châteaublanc, et ce jusqu'au 25 juillet. Denis Lavant, vous jouez bien sûr Galiguet, qui un beau matin sort de chez lui pour faire les courses, et qui deviendra au fil des rencontres un chef de guerre. Mais j'aimerais d'abord poser une question à votre metteur en scène, à Bernard Sobel, pour savoir, dans cette programmation très allemande, pourquoi vous avez choisi de monter Brecht, vous, le français? Est-ce que c'est un hasard de programmation? Est-ce que c'est une fidélité à Brecht que vous avez beaucoup mise en scène? Ou peut-être une provocation?
Je voudrais d'abord dire que le fait d'être là, de vous parler, de devoir avoir à répondre à vos questions, n'est pas quelque chose que je fais dans la joie. Parce que la lutte des intermittents dont nous faisons partie fait que je ne trouve pas du tout naturel d'être là. Et je me permets de vous dire, je m'excuse, mais je me permets de vous dire que cette lutte n'a encore rien rapporté dans les faits. Et que si le travail des intermittents pour proposer des solutions concrètes, qui est un long et difficile travail parce que le problème n'est pas simple, s'il n'est pas relayé par M. Guillou, qui a été nommé par l'État expert pour essayer de trouver des solutions, s'il n'est pas tenu compte, après réflexion, du travail des intermittents, ce sera plonger une grande partie de notre métier dans le désespoir. Alors, en ce qui me concerne personnellement, je ne peux pas être là en disant voilà, voilà. Mais je dirais, par rapport au problème des Allemands, je voudrais aussi rappeler quelque chose. Vous avez vu des spectacles, le Wojtek, Marc Haller, Castor, qui sont des gens que j'admire profondément. Et vous avez eu raison de trouver ce qu'ils ont fait d'entre vous, ces spectacles, ces travaux extraordinaires. Mais je voudrais vous rappeler une chose, c'est que ça pose une question, et j'en aurai très vite terminé, sur la fameuse exception culturelle. Je pense que nous qui jouissons d'une soi-disant exception culturelle, aucune troupe, il n'y a pas de troupe sauf la troupe de la Comédie Française. Nous n'aurions pas pu faire ce travail de recherche qu'ont fait Marc Haller, Castor, Polèche et tout ça s'il n'y avait pas des instruments de travail adéquats. Et donc c'est bien ce qu'il faut se mettre dans la tête. Il n'y a pas d'exception culturelle que les autres nous envieraient parce que nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions. Je pense que c'est une chose qu'il faut rappeler. Bon, alors, qui me paraît essentielle, parce qu'il y a des maldonnes, des manières de parler qui sont fausses, et l'exception culturelle, il n'y en a pas. Il y a peut-être 70 comédiens permanents, alors qu'un modeste théâtre national à Saratov, c'est 200 ou 250 permanents, et ça sauve les métiers maquilleurs, habilleurs, costumiers, tout ça est détruit chez nous. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et donc, chaque travail d'équipe qui travaille dans les conditions d'exception culturelle sont un miracle. de ce que vous voyez. Ça n'est pas un miracle que de voir le travail de Castor. Ça n'est pas un miracle de voir le travail. Même si Marthe Haller connaît les mêmes aventures que nous, eh bien, il faut y penser à ça. Ça me paraît essentiel. Alors, le choix de la version de 26, eh bien, elle a à faire, je dirais, avec la programmation du festival. Parce que je n'ai jamais vu un festival où la politique était aux avant-postes, justement chez les Allemands. Je n'ai jamais entendu parler aussi souvent de capitalisme, de profit, de choses comme ça, alors qu'il y a une époque où si nous, on se permettait de monter un spectacle dit politique, hein, etc., on a dit « Oh non, non, on en a marre de tout ça ». Et d'un seul coup, vous voyez, dans la cour d'honneur, et je dirais même avec Ibsen, vous allez entendre parler de capitalisme, de profit, de ce que ce système social, qui est naturel, hein, ce n'est pas, je dirais, c'est aussi naturel que quand Claudel étudie ces problèmes-là. Donc là, enfin, nos amis allemands nous parlent de ce qui nous concerne tous, et je dirais même profondément, d'une certaine peur que nous avons tous, les privilégiés de l'Europe.
Mais bizarrement, aucun des Allemands n'a choisi de monter un texte de Brecht. Or, vous le faites, c'est pour revenir aux origines oui. de cette...
Non, non, c'est parce que je pense que le Brecht de 26, il n'était pas seulement dans le désespoir. Et à l'horizon, il y avait, dans le fond, je pense que homme pour homme, c'est avant tout pas une interrogation sur le capitalisme, mais c'est une interrogation sur ce que peut vouloir dire dans l'avenir de prétendre construire une société meilleure pour un homme nouveau. Et de ce que cette prétention contient de danger. Alors ça part de la guerre de 14-18, du massacre. Alors ça, c'est la pièce est fondamentale, le poème est fondamental pour nous parce que il fait partie de tout le mouvement, je dirais, qui va dire il faut trouver des formes nouvelles pour se poser les questions nouvelles. Et je dirais qu'avant tout, il me semble que Brecht essaye d'établir un laboratoire scandaleux, mais en étant un fidèle disciple de Diderot, par exemple. Et je pense que tout théâtre, je dirais, tout poème théâtral valable est toujours placé devant ce questionnement, et que le privilège du théâtre, c'est justement de ne pas être obligé d'être politique, c'est-à-dire de toujours positiver, mais d'essayer d'assumer la part sombre, la part de mort, on dit des choses bêtes comme ça, mais c'est pas ce que je voulais dire, je dirais la part sombre. Et de dire qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas envisager de réfléchir sur soi-même sans assumer cette part d'ombre. Le politique positif comme carrefour, il n'y a pas de part d'ombre. La part d'ombre n'est pas bien, etc. Or, on a toujours affaire à elle. Alors pourquoi ? Ben, je dirais, moi, ce que j'admire dans le travail de Marthe Haller, de Castorf, de Polesch, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'ils ont mis au centre un nouveau lieu qui est un lieu du questionnement de l'individu qui est le supermarché. Alors avant, il y avait les cours ou les appartements privés ou le cabinet de psychanalyse. Et eux, ils disent, mais ça se passe où ? Ça se passe dans les supermarchés, ce qui nous concerne tous, que nous soyons, voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors ils doivent le tenter. Et je dirais que Brecht, effectivement, a été scandaleux au moment où il l'a fait. Oui, c'est un expérimentateur, mais je pense que il y a une expérience chez Brecht que je ne retrouve pas chez nos amis allemands, c'est que l'expérience passe par le langage et la création d'un nouveau langage qui permette d'un nouveau langage sur le plan de l'écriture. Ça ne veut pas dire d'essayer d'être moderne ou nouveau, parce qu'on peut dire que dans Homme pour Homme, dans Un homme est un homme, ça on pourrait discuter du changement du titre d'ailleurs, dans Un homme est un homme, il y a des vieilles formes qui sont au travail, les formes carnavalesques, des formes, l'expérience nécessaire, la nécessité de faire l'expérience de la mort pour prendre conscience que personne d'entre nous n'est éternel et d'essayer de se construire à partir de là. Voilà.
Mais alors pourquoi reprendre cette pièce, sachant que vous l'avez mise en scène en 1970 ? Est-ce que c'était parce qu'il fallait retravailler cette pièce au regard de l'évolution du monde, des idéologies telles qu'on l'a connue sur ces 30 dernières années ? Ou est-ce pour travailler avec Denis Lavant qui n'aurait pas su vous dire non ?
Si, il aurait pu dire non. Non, mais c'est essentiellement, moi je vais vous dire, je pense que sans les poètes du plateau, je pense qu'on devrait, en tant que metteur en scène, avoir une relative modestie, même une très grande modestie, parce que ce n'est pas nous qui nous viendrons le soir, et qui assumons le travail. Et effectivement, l'amitié, je crois pouvoir dire ça, que j'ai pour Denis, et le respect que j'ai pour son travail, comme c'est le cas des autres, mais aussi en particulier, je le dis comme ça, dans l'aventure par exemple avec Pascal Bongard, ce sont des acteurs qui lisent des poèmes toute la journée, ils ont plein de poèmes dans les poches. Et c'est une chose qui n'est pas évidente et qui est rare, et donc j'aime bien travailler avec eux parce que c'est eux qui me... C'est le fait qu'il y ait Denis et qu'il y ait Pascal qui a eu l'immense générosité, parce qu'il a joué dans une version jouée par Jean-Pierre Vincent, d'accepter de jouer le rôle de Fairchild. Et je pensais que le rôle de Fairchild me paraît capital également. Et donc, c'est d'un seul coup, on se dit, j'ai proposé à Denis. Je lui ai dit, tiens, parce que lui, Brecht, quelque part en politique également, c'est là où on ne s'entend pas très bien.
Ça se rejoint à l'endroit, d'accord. Justement dans la poésie. Quoi.
D'accord. Alors, je veux dire qu'à ce moment-là, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse ? Et je me disais, là, il y aurait une occasion pour lui de magnifier son art. Voilà. Et à partir de là, c'était la raison pour moi principale. Dans le fond... c'est effectivement la réalité des acteurs et pour moi le fondement essentiel de pourquoi on fait telle ou telle chose. C'est pas le texte en soi.
Denis Lavant, c'est pour Brecht ou c'est pour Sobel donc que vous avez dit oui ?
Bon, ni l'un ni l'autre. Hein. C'est pour une idée, quoi, pour une possibilité de. C'est un peu pour Bernard, forcément. Pour Brecht, je le connais moins. Mais c'est pour. C'est d'abord pour un. Ouais, pour une idée, pour essayer de comprendre une dynamique, un personnage, une. Comme ça, un type d'individu, quoi. Que Bernard m'a présenté, parce que je connais très mal Brecht, pas pour autant que lui. Et j'ai joué Bâle une fois, qui est une pièce encore plus de la même époque, mais encore plus ancienne. Et quand on avait joué Uberoi, il y a quelques années déjà, dans la foulée, Bernard qui aime toujours proposer des projets à chaud, alors qu'on n'a pas terminé de boucler une pièce, il m'a proposé de faire Arthur Howie. Je me suis dit, ah ouais, c'est bien quoi, de faire, c'est une autre marionnette que Ubu. Et en même temps, pour moi, ça me semblait trop proche de, comme itinéraire, trop proche du Burois, quoi. Encore un tyran, une sorte de personnage comme ça, désagréable. Et en fait, j'ai réagi après coup, donc là j'ai dit non, on le voit pas vraiment oui, quoi, j'ai pas acquiescé, quoi. Et j'ai laissé courir, et plus tard Bernard m'a proposé, homme pour homme, quoi, un homme est un homme, soit pas du tout comme ça, et surtout il m'a présenté cette pièce en me disant qu'il aurait toujours rêvé de monter avec Fernand Reynaud. Je me suis dit, oh, mais c'est marrant, quoi. Comme, je connais mal Fernand Reynaud aussi, mais bon, c'est un personnage, c'est un type d'individu, de comique, en même temps d'humain, quoi, qui est une manifestation d'humanité qui me plaît, quoi, qui ressemble à rien, qui a un type qui est commun, en même temps qui peut être drôle, méchant, quoi. Une sorte de masque, de figure qui retentit comme ça. Et c'est ça qui m'a interpellé en premier. Après, j'ai eu la pièce. Avec cette information, et je lui dis, ah oui, c'est une énergie, c'est un itinéraire qui me, comme ça, au premier abord, qui me plaît, parce que ça, c'est différent, quoi. C'est différent de, effectivement, du but, de ces tyrans, de ces gens qui déplacent comme ça, qui sont dans une profération violente, ces dictateurs, quoi, qui sont les locomotives d'une pièce. Et je me suis dit, c'est bien, c'est un personnage qui est plus en creux, quoi, apparemment. C'est moins fatigant, parce que moi, je regarde toujours si c'est fatigant ou pas avant d'aborder un truc. Et comme j'ai plutôt, bon, là, si on n'a pas, si c'est bien, quoi, c'est pas un truc exténuant, quoi. Souvent, ça, on arrive à prouver le contraire après coup. Mais je me dis, ah, c'est un rythme de personnage qui m'intéresse, parce que c'est une chose que j'ai pas, je disais, Bernard, que j'ai pas abordé, qui me permet d'aller explorer un espace de liberté ailleurs. Et donc ça, c'est parti de là. Et puis c'est vrai que c'est une pièce, tant que c'est sur le papier, c'est une partition, et on peut que subodorer ce que ça peut être, mais on la découvre vraiment en la mettant en jeu, quoi. D'un côté avec le regard du metteur en scène qui voit le parcours, qui a une idée aussi d'où à où ça peut aller. Et aussi avec l'échange qui se passe avec le comédien, qui lui est à l'intérieur du personnage, entre autres de Galigai, et qui voit comment ça retentit humainement aussi. Et là, effectivement, c'est un. Moi j'ai découvert vraiment, j'ai découvert dans ce cas-là vraiment l'écriture de Brecht, qui est encore poète, qui est très poète, c'est-à-dire ça retentit de façon invraisemblable, cette pièce. Il n'y a que des choses qui sont. C'est une chambre d'écho, quoi, sur l'être humain, quoi, sur la confrontation de plusieurs entités, de plusieurs extrêmes, dont ce Galigai que je vais essayer de faire.
Denis Lavin, avant de parler de ce personnage, j'aimerais quand même que Bernard Sobel nous explique le lien entre Fernand Reynaud et vous, parce qu'à part le chapeau, je ne vois pas.
Ah ben voilà.
À part le
chapeau, je ne vois pas.
Ah ben, ça, non, mais c'est vrai, j'étais encore assistant à la télévision et j'ai une grande admiration pour Fernand Reynaud. Ça, je ne pourrais pas vous expliquer la nature de cette admiration. Et puis, je lui ai dit, un jour, je suis approché de lui, comme ça, très timide, et je lui ai dit, pardon, monsieur, est-ce que ça vous dirait. Il m'a dit, mais t'as du pognon. Et puis, c'était tout. Mais non, je tiens des sketchs de Fernand Reynaud. Par exemple, dans la matrice langagière de Un homme est un homme, il y a un grand comique allemand. On ne peut pas penser l'invention d'un nouveau langage sans les recherches du langage de Karl Valentin. Voilà, donc Karl Valentin, c'est essentiel pour Brecht. Et Fernand Reynaud, c'est comme Raymond Devos. Ce sont de grands auteurs qui ont trouvé les moyens de dire des choses sur aujourd'hui, de nous faire accepter l'angoisse de notre condition sans se prendre trop au sérieux et de nous donner du courage. Et voilà, c'est tout. C'est un défi. Si je disais, moi je pensais à Fernand Reynaud, effectivement, pour Denis, c'est un défi.
Et vous avez pensé à Fernand Reynaud, Denis Lavin, en créant ce personnage ou pas? Non.
De temps à autre? Non, pas absolument tout le temps. Mais pour moi, c'est un repère. Effectivement, ça met la barre, là, quoi, de dire, ah oui, il y a ce type-là qui a été dans, comme ça, qui a existé, qui a manifesté quelque chose, qui était qui était dans l'esprit de Bernard. Et pour moi, si vous voulez, des fois, dans à Gennevilliers, tout bêtement, là où on a répété, il y a un café qui est en face du théâtre, ou au-dessus du bar, il y a un portrait de Fernand Reynaud. Et donc, forcément, quand je bois un café avant d'aller en répétition, je regarde Fernand Reynaud et je dis « Ah ouais, ok ».
Ce café est à Asnières, c'est juste en face du théâtre, et il y a le célèbre le 22 à Asnières. Et quand Fernand Reynaud répétait, etc., il avait une piole quelque part à Gennevilliers pour ses amours.
Alors, comment vous l'avez construit, ce personnage de Caligari?
Comme ça.
Après la couche Fernand Reynaud.
Ben non, c'est pas des couches, quoi. Si, il y a des stratifications, quoi. Mais je sais pas, c'est par des touches, hein, comme ça, quoi. Je l'ai pas construit, moi. C'est pas vraiment de la. Je suis pas dans le bâtiment, quoi. Mais c'est d'essayer d'appréhender comme ça quelque chose. Pour moi, de toute façon, déjà, dès le départ, et c'est je me fie de plus en plus à ça, il y a déjà. La partition, quoi. Le texte de Brecht, sur lequel on a marné pas mal, on a travaillé, on l'a tordu dans tous les sens, on l'a repris, parce que c'est une traduction, donc c'est toujours une approximation tout de même. Et c'est un texte qui est essentiel, quoi. Enfin, comment c'est écrit, il n'y a pas à rajouter des trucs, à mettre des O, des A, des. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est effectivement, Bernard, il parlait de Karl Valentin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un comique, c'est un type insensé qui a écrit des textes. Moi, j'en ai joué et c'est la chose la plus difficile à jouer que j'ai jamais eu entre les mains. Quoi. Parce que c'est des sketchs qui paraissent rien, qui paraissent des trucs un peu qui font farce. Et en même temps, c'est un précipité d'humains, comme ça, en un échange assez bref, essentiel, et qui se termine en cul de poisson. Quoi. C'est un humour très particulier, très opiniâtre. Et pour moi, ça m'a donné autant de mal à jouer, parce que je l'ai joué une fois, que si je devais jouer un sketch de Laurel et Hardy, par exemple. C'est du même tonneau, quoi. Et donc j'ai été averti un peu par rapport à ce langage-là. Et puis, bon, j'ai essayé de tendre des fils, quoi, pour essayer de faire tenir cette figure de Galilée avec mes collègues, parce qu'un personnage tel que Galilée, il n'existe pas tout seul. C'est pas un type qui a une dynamique autonome, telle que pourrait être, par exemple, Ubu, qui est déjà plus autonome, qui se met en marche et qui avale, quoi. Galigai, c'est autre chose, c'est ça qui m'a plu, c'est une énergie en creux, c'est-à-dire qu'il tire son. Il est provoqué chaque fois dans son itinéraire par les autres. Donc, l'énergie et la parole des autres, et les actions des autres comédiens, des autres personnages, est très importante parce que c'est ça qui le fait rebondir sans cesse. Même s'il a aussi une autonomie, une absolue liberté à l'intérieur. Et c'est ça qui est passionnant. En fait, c'est drôle parce que cette pièce, moi, je ne la connaissais pas du tout avant de la rencontrer avec Bernard. Et je sais qu'elle a été montée, heureusement, par beaucoup de gens. Et je sais qu'il y a. C'est un personnage qui pose un problème, qui est énigmatique. Même pour Brecht, puisqu'on part du questionnement de Brecht sur ce personnage, parce qu'il fait émerger ce type qui part un matin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, c'est pas très grave, parce que bon, c'est le déroulement qui importe, hein, c'est pas le but. Et c'est un type qui part, qui dit à sa femme, je pars acheter un poisson, et je reviens dans une minute. Et on le retrouve 10 heures après, qui fait route avec une cantinière de l'armée. Et c'est trop tard déjà, quoi. C'est affligeant comme situation. C'est déjà trop tard pour aller chercher un poisson, c'est trop tard pour rentrer chez lui. Et en plus, il se présente comme un type, ça lui est complètement égal d'acheter un poisson ou pas, parce que finalement, il a tellement d'imagination que la pensée, l'idée du poisson lui suffit, a priori. Mais on va voir que c'est pas aussi simple que ça dans sa tête, quoi. Et du coup, il se fait embringuer par des militaires, quoi. Qui lui promettent un cigare et puis qui lui font boire des coups, et finalement il reste scotché à la caserne sans être rentré chez lui. Et pour moi, c'est. Et après, ça va l'emmener très très loin parce que c'est pas tellement. Bah, il est présenté par les autres. En même temps, il faut se méfier. Un personnage, il est à la fois défini par lui-même, par son propos, et par les autres personnages. Et c'est jamais tout à fait la vérité, donc on ne peut pas se fier complètement à cette parole-là parce que c'est quelque chose qui a entre. Il y a Galigai aussi, il est. Il y a quelque chose d'indéfinissable, justement. Et le problème, c'est de savoir ce personnage, s'il est complètement idiot, si il est stupide, innocent, ou si c'est une tronche, quoi. C'est un type qui sait parfaitement, qui comprend parfaitement ce qui se passe autour de lui et qui accepte de se faire embarquer, quoi. Par curiosité ou pour changer, quoi, pour aller voir le monde, qui quitte son état de petit porteur pour aller se promener. C'est quelque chose de forcément périlleux de lui, parce que, effectivement, c'est plus loin que l'expérience de changer de statut social ou de costume. C'est aussi l'expérience de la mort, c'est l'expérience de changer d'identité, quoi, d'accepter d'être confondu. Donc c'est un projet qui est assez vaste. Et voilà, c'est tout ce que je peux en dire, parce qu'il faut encore le prouver, quoi.
Avant de passer aux questions de la salle, parce que j'imagine qu'il y aura des questions, Bernard Sauvel, est-ce que vous avez tranché entre ces deux options de Galigay? Denis Lavant parlait de sa liberté. Ce n'est pas forcément la lecture.
Oui, si, d'ailleurs, Brecht était, quand on lit les pages de son journal et tout ça, Brecht est effrayé par la créature. Il y aura beaucoup de versions petit à petit, c'est comme un monstre qui naît et qui lui fait peur. Je dirais aussi, pour compléter un peu ce que vient de dire à très juste titre Denis, c'est que Brecht qualifie Galigay de sage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, au départ, dans un monde tel qu'il lui est proposé, a défini une attitude sage qui est la castration de tous ses désirs, de ne pas en demander trop. Et puis, il va y avoir des occasions, on peut dire, dans lequel il dit, disons, je peux demander un peu plus. Un petit cigare. Un coup, ça ne compte pas. Et puis, demander encore un peu plus. Et voilà. Et dans le fond, quand il y a le mot « à chacun son éléphant », il y a le slogan « à chacun son éléphant », quelqu'un dit «
c'est lumineux.
C'est lumineux, à chacun son éléphant. » Voilà, je dirais que... Alors, donc, je dirais que ce qui est difficile, me semble-t-il, pour nous tous et pour Denis en particulier, c'est d'épaissir le mystère et pas de dire, voilà, Galigay, c'est ça. Galigay, on ne saura pas quelque part ce que c'est, et d'ailleurs il dira, mon point de vue, en définitive, c'est qu'un homme est un homme. Voilà, c'est son point de vue. C'est différent pour la figure de Fairchild, qui lui est plutôt la figure... Vous savez, Brecht appelle ça ein Lustspiel. Et le Lustspiel, on ne peut pas le traduire en français, c'est la pièce... c'est pas une comédie, c'est... Il y a deux genres dans le théâtre allemand. Il y a le Trauerspiel, qui est le jeu du deuil ou de la tristesse. Et il y a le Lustspiel, qui est le jeu de l'amusement et de la gaieté, comme ça. Et dans le fond, ce dont Brecht essaye de se débarrasser, ce contre quoi il se bat, c'est de l'autosatisfaction dans le Trauerspiel. C'est-à-dire les gens qui sont plongés dans le Trauerspiel, c'est-à-dire dans la version tragique de l'existence, n'ont plus le droit au chapitre. C'est terminé. Alors, qu'est-ce que ça donne comme humanité pour demain? Ça, c'est ouvert. Voilà. Et vous m'aviez demandé...
Je voulais rajouter quelque chose, excusez-moi, justement.
C'est sur la liberté.
À propos de la sagesse ou de la non-sagesse du personnage. Mais pour moi, effectivement, il y a un truc, parce que je continue à réfléchir forcément un peu de façon permanente à ce qui est en train, cette pièce. Et il m'a paru un truc, effectivement, par rapport à ce gars, Galigay, là, que si la pièce, elle est placée en 1925, et c'est important qu'elle soit placée dans le temps, chronologiquement, en 1925, c'est que c'est juste après la Première Guerre mondiale. Et pour moi, c'est drôle parce que comme j'ai eu un peu l'expérience des tranchées des tranchées de 14-18 de façon fictive, bien sûr, à travers, dans un film que j'ai fait. J'ai vraiment, ça a retenti très fort sur moi cette année. C'est-à-dire, si vous me demandez comment je travaille sur un personnage, c'est aussi de façon totalement hasardeuse, par les éléments qui m'arrivent de l'extérieur auxquels je suis perméable. Évidemment, je me dis, c'est quelque chose d'abominable, quoi. J'ai réalisé en étant dans les tranchées, en faisant un poilu dans la boue et tout, et encore, il n'y avait personne en face pour nous tirer dessus, c'était juste une reconstitution. Et je me suis rendu compte que c'était un moment de folie, une folie collective, quoi, de se plonger dans ce bain de boue et de sang. Et en pensant à la position de Galigai, qui est juste un petit porteur du port, et qui dit, chaque fois qu'on lui dit, ah, fais gaffe, il y a des soldats en ville, mais il dit, ah, un simple porteur, ils ne voudront rien faire. C'est comme si c'était quelqu'un, ou Brecht lui-même, qui avait reçu un traumatisme terrible de ces affrontements sanglants, et qui disait, le seul moyen de survivre, même si on a l'intelligence de ce qui se passe autour, c'est de se retirer d'une certaine manière des affaires du monde, des affaires des hommes et de leurs tourments et de leur confrontation, de leur cruauté, et de se mettre au plus bas niveau de l'échelle sociale, tout en survivant, tout en ayant des petits moyens pour survivre avec sa femme, avec un salaire de pourboire, mais le plus humblement possible pour pas être emmerdé, quoi. Et finalement, c'est pas tenable, parce que c'est un personnage comme si, dans un état de sagesse, il était retiré du monde, quoi, comme il fallait pour être tranquille, et que quand même, il est forcé à un moment donné, malgré lui, et parce que aussi à cause de lui, parce qu'il est forcément, il est polarisé par le monde, il est forcé de se remettre à nouveau dans la vie et dans la guerre et dans tout le tourment, quoi, de l'humanité. Voilà.
L'heure étant ce qu'elle est et tournant, y a-t-il des questions dans la salle, monsieur?
Bonjour Denis, quelles sont les valeurs essentielles du personnage que tu joues, celles que tu as envie de mettre en avant?
J'entends très mal.
Quelles sont les valeurs essentielles de ce personnage que tu trouves que tu as envie d'exprimer à travers ce personnage?
Pour moi, ce qui m'épate le plus dans ce personnage, c'est la croyance qu'il a en pouvoir de l'imagination et suppléé par le pouvoir de la parole aussi. Pour moi, c'est un type. Ce qui me plaît pas entièrement, parce qu'on peut pas être complètement en sympathie avec un personnage, parce qu'il a ses travers, forcément. Mais c'est quelqu'un qui est dans une attitude poétique. C'est-à-dire, pour moi, c'est un poète, mais qui n'aurait pas besoin de passer par l'écrit. Excusez-moi, vous me cachez la personne à qui je parle. Ouais. Et ben voilà. Et en fait, il est dans une manifestation incarnée de sa poésie à lui, sans être obligé de laisser une trace. Et c'est ça qui me plaît, parce que c'est un espace de liberté. Et c'est un des personnages de la pièce, à mon avis, parce que la plupart des personnages, les soldats, les gens, ils parlent, ils entrent en communication avec les autres pour obtenir quelque chose. Dans un but précis, pour les manipuler, pour aller de là à là. Et Galigai, il s'exprime aussi pour le pur plaisir de hâbler, quoi, de s'exprimer, de faire évoluer une pensée dans l'espace. Et ça c'est un trait de caractère qui me touche, quoi, qui me... Ouais.
Y a-t-il d'autres questions? Personne.
Bon, tant pis.
Juste une dernière question. Bernard Sobel, brièvement, sur le choix de la date, donc 1925, c'est la version de Brecht. Est-ce que vous avez scéniquement, scénographiquement, choisi d'installer la pièce et l'action en 1925?
Non, on la joue aujourd'hui. Mais il y a une difficulté avec Brecht, si on veut. C'est que dès qu'on tombe dans une scénographie naturaliste, si on veut, vraisemblable, le côté philosophique du discours, mais j'entends philosophique dans le sens de Fernand Reynaud, hein, ou de Raymond Devos, entendons-nous bien, mais comme s'il y avait du vraisemblable. L'expérience langagière nécessite de trouver quelque chose qui fait que c'est le langage à l'état pur qui arrive, c'est le langage et l'aventure du langage qui est un paysage, et une des choses qu'on a voulu faire, qu'on a tenté de faire, c'est absolument d'essayer d'éviter la chose, comme ça arrive assez souvent, de dire « Ah oui, c'est comme au Vietnam, c'est une pièce sur la guerre, etc. » d'éviter ça. Voilà, donc on a essayé de trouver un truc comme ça pour s'en tirer.
Un truc qu'on verra donc à Châteaublanc, à partir du 14. Merci beaucoup Bernard Sauvel.
Je tenais à signaler une chose, c'est que demain à 11h30, je crois, dans la cour du palais, le festival a eu la gentillesse d'ouvrir la cour aux intermittents pour participer à la conférence de presse de notre président.
Merci Bernard Sauvel, merci Denis Lavant. Donc un homme est un homme de brèche du 14 au 25 à Châteaublanc.